Alors, peut-être avant de commencer, on va voir un message dans le message. Je voulais regarder un verset du texte ce matin pour qu'on se mette un peu dans le bain, parce que on se voit quasiment tous les dimanches et le danger, c'est de commencer à oublier les enjeux qui sont là. Regardez avec moi 2 Timothée. Et là, je parle vraiment à tout le monde, que tu aies 10 ans, que tu aies 90 ans. Si tu as 90 ans, je vais te vous voyez, mais voilà, c'est tout. Ce sera la seule différence. Regarde le verset. Donc là, on est dans nos Bibles blanches, à la page 783. Page 783, le chapitre 2 de 2 Timothée, verset 7. Ma question pour nous, avant de commencer avec le vrai message, c'est est-ce qu'on croit vraiment que ce livre vient de Dieu? Parce que le danger, c'est qu'on se retrouve chaque dimanche pour écouter un message à partir de ce livre et on n'est plus en train de prendre au sérieux ce que dit ce livre. Et donc, c'est des infos intéressantes. On peut même se dire, ce serait bien si un tel avait été là, ça lui aurait fait du bien. Et on n'est plus en train de se dire, Dieu m'a parlé à travers ce livre. Le matin, tout au long de la semaine, est-ce qu'on est en train d'ouvrir ce livre en s'attendant à ce que Dieu parle? Et regardez ce verset vraiment curieux et génial en fait. Chapitre 2, verset 7. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. D'autres traductions, c'est réfléchis à ce que je dis et le Seigneur te donnera en effet, te donnera l'intelligence en toutes choses. Plus une promesse. Réfléchis et le Seigneur t'illuminera les yeux. Réfléchis, médite et tu comprendras grâce à Dieu. On pourrait facilement zapper ce verset, mais l'apôtre Paul, en train d'écrire une lettre à quelqu'un, et imaginez que j'écrive une lettre à un jeune qui est en train de devenir chrétien, qui se pose des questions, et que je lui dise, médite bien sur toutes les paroles de ma lettre, et le Seigneur te donnera la compréhension. Je pourrais peut-être le faire. Mais il y aurait quand même un malaise à le faire, parce que ce que moi j'ai écrit, c'est pas inspiré de Dieu. Mais Paul, sans aucun scrupule, peut dire, réfléchis bien à tout ce que je t'ai écrit, et le Seigneur te donnera la compréhension. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec ce livre, que alors que Timothée médite sur les paroles, Dieu, par son Saint-Esprit, il a dit, donne la compréhension de ce livre. Et là, on est en train de parler d'une lettre, d'un apôtre à un plus jeune dans la foi. Et donc, Paul peut, plus loin, si vous tournez la page, au chapitre 3, il peut dire, quant à toi, verset 14, chapitre 3, verset 14, donc deuxième colonne, juste avant le grand 4, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Tu veux savoir au collège qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu veux savoir au lycée? Tu veux savoir au travail? Tu veux savoir à la maison de retraite? Tu veux savoir? Toute écriture a été donnée pour qu'on sache, pour qu'on soit équipé, qu'on soit prêt à toute œuvre bonne. Et sur ça, on va prier pour le message. Mais je veux juste qu'on le croie vraiment. Est-ce qu'on le croit vraiment? Parce que sinon, ce qu'on va dire ce matin, ça rentre, ça sort, c'est fini. Mais si c'est Dieu qui parle, si c'est Dieu qui te parle à travers ce livre, est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il te demanderait? Je prie. Père, merci pour ton Saint-Esprit qui nous illumine les yeux pour comprendre ta parole. Et s'il te plaît, fais-le pour nous encore ce matin. Tu vois ce texte, riche de conséquences pour notre vie. Applique-le au cœur de chacun pour qu'on soit tous en train d'être enseignés par ta parole. Qu'on ait 10 ans ou que ça fasse qu'à 50 ans qu'on te connaisse. S'il te plaît, parle, ouvre nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire le texte. Et c'est un texte qui est très similaire. En fait, on termine l'argument de la semaine dernière de ce que Paul est en train de dire à Timothée. Et il faut vraiment se replacer dans un contexte de persécution. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais si tout d'un coup s'afficher comme chrétien était une menace à ta vie? Qu'est-ce que tu ferais si aller au culte était un danger pour ta famille? Si tu risquais de perdre ta maison, que les banques saisissent, que le gouvernement saisisse ta maison? Si tu risquais que tes enfants soient enlevés pour qu'ils soient éduqués par l'État, parce que tu vois, en tant que chrétien, tu n'es plus capable d'élever tes enfants? Dans ce contexte-là de persécution, les paroles de Paul à Timothée sont super importantes. Et nous, on a peut-être un peu du mal, parce qu'on n'est quand même pas dans cette situation actuellement. Il y a plein de chrétiens dans le monde entier. Le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Il y a des milliers de chrétiens qui sont tués pour leur foi chaque année. Et des textes comme ça sont riches d'enseignements. Mais pour nous aussi, parce qu'on a quand même des facteurs, on va les regarder, similaires. Même s'ils sont différents. Et pour vous qui êtes là de passage, vous posez des questions sur le christianisme, merci d'être venu. Le texte va quand même, je pense, répondre peut-être en filigrane à deux de nos craintes en tant que athées ou en tant que non-chrétiens. On voit les religions, on a peur du radicalisme. Je sais pas vous, mais moi, même en tant que chrétien, j'ai peur du radicalisme. Quand on voit un peu ce qui se passe, on se dit, mais ils sont carrément cinglés. Et le texte va répondre au radicalisme en nous disant que les chrétiens doivent être radicaux, mais c'est pas le radicalisme qu'on voit à la télé. C'est un radicalisme radicalement différent, qui agit par amour, et un radicalisme radicalement différent parce que celui qu'on suit, le maître, si vous voulez, il a vraiment vécu tout ce qu'il nous demande de faire, en fois mille. Et notre peur ou notre énervement peut-être, c'est on peut être énervé par le prosélytisme, même le fait qu'on essaie de vous inviter au culte. Vous dites, oh, franchement, ces chrétiens, hein, toujours en train d'essayer de nous refourguer leur Jésus, là. Ben, le texte répond aussi à ça. Que c'est vraiment pas pour marquer des points au ciel, c'est pas pour avoir moins d'années en enfer qu'on fait ça. Hein. On va regarder ça dans le texte. Donc, on va lire. Et si vous voulez déjà avoir une petite idée de où est-ce qu'on va aller, on va prendre des termes bien militaires, donc bien radicaux, hein, parce que c'est les termes que Paul utilise ici. Il prend l'image d'un soldat. Donc on va regarder notre ennemi, notre arme, notre mission et notre motivation. Notre ennemi, notre arme, notre mission et notre motivation. 4 points. Je lis à partir du verset 15 du chapitre 1. Donc on est toujours à page 783. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre comme un bon soldat du Christ Jésus. Comme un bon soldat du Christ Jésus. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ pour la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, Vous sentez le contexte de persécution, je pense. Timothée a peur. Timothée est face à des doutes, on a vu la semaine dernière. Et Paul l'encourage avec l'évangile. Et on avait dit que l'évangile est la meilleure façon d'encourager. Parce qu'en se rappelant ce que Dieu a fait par grâce pour nous, tout est relativisé. Il y avait plein d'autres facteurs que Paul utilisait pour encourager, mais ça c'était la semaine dernière. Et cette semaine, on pourrait se demander, face à la persécution, est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre ma maison? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre ma famille? De m'afficher comme chrétien? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et Paul répond dans ce texte, l'évangile vaut bien tous les sacrifices. La bonne nouvelle de Jésus, on pourrait dire Jésus vaut bien tous les sacrifices. La personne de Jésus vaut bien tous les sacrifices. Donc regardons les quelques premiers versets, on voit l'ennemi du passage, même si l'ennemi est multiple. Verset 15, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Donc abandon général des coéquipiers de l'apôtre Paul. Et on pourrait se dire, ouais, simplement, ils avaient d'autres choses à faire, ou ouais, c'est quand même beaucoup plus fort que ça quand il parle d'abandon. Donc il dit notamment Phygèle et Hermogène. Si vous regardez la page suivante, au chapitre 4, verset 9, on a d'autres abandons aussi. 4, verset 9, tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Donc il y a encore un abandon qui et il précise, c'est par amour pour le monde présent. Et il y a d'autres abandons. Si on regarde au chapitre 2, donc la première colonne de la page 784, verset 16, évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Donc il y a ceux qui sont en train d'abandonner pour des mauvaises doctrines, apparemment des faux enseignements qui ne sont pas de la Bible, et d'autres qui sont en train d'abandonner par amour pour le monde, et d'autres sans doute qui sont en train d'abandonner, j'ai oublié un verset, qui sont en train d'abandonner par crainte des représailles des autorités. Verset 16 du chapitre 4, donc là c'est page 785, verset 16, « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous au contraire m'ont abandonné, qu'il ne leur soit pas tenu compte. » Donc pourquoi est-ce qu'ils sont en train de l'abandonner? Parce que celui qui se pointe au tribunal, dans un système judiciaire romain, n'était pas aussi protégé peut-être que le témoin en France. Et donc, si tu es ami, famille du condamné, tu es aussi coupable par association. Et on peut aussi commencer à faire des investigations sur ta vie. Sans mentionner qu'on persécutait des chrétiens. Donc, si tu es ami, famille de Paul, est-ce que tu crois aussi la même chose que lui? Et donc, les gens sont en train de l'abandonner. Et quelle est la motivation derrière l'abandon? C'est quoi l'ennemi derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait Paul? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de s'afficher? Paul utilise le mot « clé » au verset 16, en parlant d'un bon exemple, Onésiphore. « Car il n'a pas eu honte de mes chaînes. » C'est la honte qui a poussé les autres à abandonner la foi, et c'est le refus d'avoir honte qui a permis à Onésiphore, un ami de Paul, d'aller le rechercher. Et qu'est-ce que ça doit faire pour toi, pour moi? C'est pourquoi la honte aurait une puissance, une aussi grande puissance dans ma vie? Si on prend une balance, mon amour pour Dieu, mon amour pour le monde, si on prend ce qu'on avait vu au chapitre 4, celui que j'aime le plus, celui qui pèse le plus lourd dans la balance, va être celui qui va contrôler mes décisions. Et si le regard des autres est plus important que l'approbation de Dieu, l'importance que j'accorde à l'approbation de Dieu, ben je vais avoir honte de m'afficher chrétien si les autres sont en train de me voir. S'il y a une menace à ma réputation, je vais avoir honte. Et Onésiphore n'a pas honte. Lui, clairement, la balance est dans l'autre sens. Dieu est en premier dans sa vie. Il n'a pas honte. Donc voilà l'ennemi. Dans ce texte, c'est la honte. Et l'ennemi derrière, c'est le diable qui cherche à nous faire chuter dans notre marche chrétienne. Et on le voit tout le temps. Des chrétiens, des personnes qui se disaient chrétiennes, qui tout d'un coup abandonne pour une raison ou une autre. J'étais en train de discuter beaucoup cette semaine avec un très bon ami, avec beaucoup de doutes, et on sait que c'est une guerre. C'est une guerre. Et Satan veut te faire chuter. C'est au chapitre 2. J'espère que je t'ai pas encore perdu. La page 784, verset 26. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable veut te faire chuter. Le diable veut que tu tombes. Le diable veut que tu renonces à ta foi, à ta confiance en Jésus. Et le facteur derrière, le petit truc, c'est est-ce que tu as honte? Est-ce que j'ai honte de m'afficher chrétien? Alors, regardons maintenant l'arme que propose Timothée. Et pas de panique hein, pour ceux qui auraient peur du radicalisme chrétien. L'arme n'est pas physique. L'arme, c'est l'évangile. L'arme, c'est, verset 1 du chapitre 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Ça, c'est les versets typiquement chrétiens qu'on pourrait lire. Ouais, ok. Et verset suivant. Allez, verset 2 maintenant, on va lire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? À la lumière des découragements, à la lumière des hontes, des hontes qui peut ressentir d'être chrétien et d'être un ami de Paul, à la lumière des exemples d'abandon, de Figel et Hermogène, à la lumière de tout ça, à la lumière du bon exemple aussi, donnez-y fort, à la lumière de tout ça, Paul dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et probablement, il fait référence à ce qu'il a déjà mentionné dimanche dernier dans le texte du chapitre 1. « Mais souffre avec moi pour l'évangile, verset 8, en comptant sur la puissance de Dieu, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa, le mot-clé qui revient qu'on a dans notre verset, à cause de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Et on pourrait passer toute notre vie à méditer cet évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Comprends ce que je dis, verset 7, et que réfléchis à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. » On a besoin de constamment méditer ces choses pour que cette grâce nous fortifie, pour que cette grâce nous garde sur le bon cap, parce que cette grâce nous donne les moyens d'avancer et de ne pas avoir honte. Regardez je vais donner quelques pistes de méditation. La grâce te libère, me libère du besoin de performer. Si tu es dans un boulot, un peu dans les... D'ailleurs, même pas juste les services, mais beaucoup de boulots aujourd'hui, ça devient vraiment dingue. Comment on peut jamais plaire assez à notre patron? Tu atteins les objectifs pendant un trimestre? On va commencer d'abord. Tu n'arrives pas à atteindre les objectifs durant un trimestre? C'est mal, on va disputer. Et tu vas peut-être perdre des primes. Tu arrives à atteindre l'objectif, on va te féliciter peut-être, et on va t'augmenter l'objectif pour le trimestre suivant. Et tu dois encore performer plus. Dans nos mariages, on a aussi une culture de la performance, où les mariages deviennent éphémères. Quand la personne que j'ai épousée ne me fait plus ressentir ce que je ressentais avant, c'est terminé. Si elle n'est plus aussi performante, plus aussi belle, plus aussi intelligente, souvent la maladie ou l'handicap deviennent des causes de rupture dans les couples. On vit dans une culture de performance. Et l'évangile vient saper ça en disant que Jésus a performé. Jésus a vécu parfaitement une vie qu'on aurait dû vivre devant Dieu. Et il est mort à notre place pour que notre vie d'échec puisse être pardonnée, notre vie de rébellion contre Dieu, de péché puisse être pardonnée. Et donc Paul dit au verset 9, il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, pas fait à cause de mes performances, de tes performances, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. C'est ça l'évangile. Un aspect de l'évangile, si tu veux. Tu peux être libéré du besoin de performer. Je peux être libéré du besoin de performer. On a aussi, deuxième bénédiction dans l'évangile qui nous fortifie. On n'a plus peur de la mort. Et là, les extrémistes, vous me direz, n'ont pas peur non plus de la mort. Hein. Mais ici, on parle d'une autre d'une autre promesse que simplement la promesse, oui, d'avoir 70 vierges au paradis hein, pour un extrémiste. Non, ici, regardez ce qu'il dit. Verset 10. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. On n'a pas simplement quelqu'un qui nous dit « C'est bon, vous pouvez aller au massacre, ça devrait marcher, vous allez vivre, vous allez survivre, vous allez avoir une bonne vie après la mort. » Non, on a un roi, un Messie, Jésus, qui meurt à notre place. Et parce qu'il est ressuscité, parce que les faits témoignent qu'il est revenu d'entre les morts, on sait que la mort est vaincue. On sait que l'immortalité est désormais offerte à ceux qui placent leur confiance en Jésus. C'est pas un espoir dans simplement des paroles d'un prophète qui peut pas nous donner de preuves, qui peut pas nous donner d'assurance. On a un Messie qui est mort pour nos péchés, qui nous a montré par sa résurrection qu'il avait vaincu la mort, que nos péchés pouvaient être entièrement pardonnés, entièrement lavés. Et j'espère vraiment que tu le crois. Et si tu ne le crois pas, commence aujourd'hui. Parce que tout autour de toi, tu cherches à oublier la mort, mais tout autour de toi nous rappelle qu'on est fragile. Regarde tous les efforts qu'on fait pour protéger nos voitures, pour essayer d'augmenter la sécurité de nos voitures. Regarde toutes les pubs pour les crèmes anti-rides. Elles sont tous les jours sur la télé en train de nous proclamer « Tu vas mourir un jour !»« Tu vas mourir un jour !» Et Jésus a vaincu la mort. Et là, on va sauter un peu, pour pas que le message dure 1h30. On est dans l'arme que Paul rappelle à Timothée. Après avoir parlé de l'ennemi, il parle de l'arme. Et il y a une parenthèse, on va la regarder à la fin, il y a une parenthèse, et il me semble qu'ensuite il continue avec l'arme, au verset 8. « Souviens-toi de Jésus, il dit, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, ou d'autres traductions, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Et il va continuer, mais on va devoir aller plus vite. Notre arme, il continue à détailler ici. C'est aussi de se rappeler que Jésus a tout vécu avant nous. Et de se rappeler que Paul a tout vécu avant nous. Et maintenant, à notre place, que Timothée a tout vécu avant nous. Si toi, tu es tenté d'avoir honte, si je suis tenté d'avoir honte au collège, de m'afficher comme chrétien, de prier, de proposer à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que tu sembles vraiment triste là depuis qu'un tel t'ose pas, t'as honte. Sache que Paul a été tenté par la honte avant toi. Lui, il a souffert, verset 9, pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Timothée a suivi cet exemple. Paul, non seulement il dit « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus », ça ne veut pas simplement dire ce que Jésus a fait, mais c'est aussi se rappeler que Jésus, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a vraiment payé à notre place. Il a fait tout ce qu'il nous demande de faire en foi sans. Et c'est aussi, verset 11, cette parole est certaine. On se rappelle, cette grâce, c'est aussi tout ce qui est promis. Pas juste l'immortalité. C'est si nous sommes morts avec lui, si nous croyons qu'on doit mourir à notre ancienne vie avec lui, on va vivre avec lui. Si nous persévérons, si on tient bon, si on refuse la honte, on va régner avec lui. Jésus va recréer un monde parfait où il règne, où il n'y a plus jamais quelqu'un qui essaie de mettre quelqu'un d'autre que Jésus sur le trône de leur vie. Et il continue en rappelant, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et là, ça semble moins encourageant quand même. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a quand même un encouragement là. Si on prend l'image du divorce, ceux qui veulent divorcer de leur époux, ben là, l'époux, Jésus, peut rien faire. Tu me renies, je vais reconnaître le divorce. Mais c'est là où le mariage chrétien, sans doute même face à l'infidélité, doit illustrer l'amour de Jésus pour nous. c'est que même quand nous sommes infidèles envers Jésus, quand nous avons honte, quand on passe par un échec et on refuse d'admettre qu'on est chrétien, si on s'en repent, Jésus demeure fidèle et lui, il ne va pas nous renier, car il ne peut pas revenir sur sa parole. Donc ça, c'est notre arme, cette grâce-là. Et on a besoin de tous les jours revenir à cette grâce-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé en vous demandant, est-ce que vous croyez vraiment que ce livre vient de Dieu? On a besoin de ce livre plus que la nourriture, plus que l'eau, plus que la vie. On a besoin de savoir qui est Dieu. Et on va terminer. Non, on va terminer avec deux derniers points. On va aller plus vite. Notre ennemi, c'est la honte. Notre arme, c'est la grâce qui est en Jésus. Et notre mission, c'est là encore un verset, franchement, qui m'a bien cassé la tête. Pas parce que je ne l'aime pas, c'est un verset extraordinaire, mais parce qu'il est, il est étrange. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce verset, le verset 2. J'ai déjà posé la question, pourquoi il arrive là, le verset 2 ? Il parle de persécution, de personnes qui abandonnent la foi. Il parle de se fortifier dans la grâce. Il parle de se rappeler de Jésus. Et il y a le verset 2. Transmets l'évangile à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, transmets-le à d'autres qui sont capables de le transmettre à d'autres. Et on se dit, mais ça sort d'où ça? Voilà ce que je vous propose. C'est que c'est la partie la moins sûre, c'est pas important pour l'interprétation. Hein, mais est-ce que c'est possible que Paul, en se rappelant qu'on peut se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, il se dit, et il faut qu'on la propage, il faut qu'on la partage. Parce que elle est de nature à être communiquée à d'autres. Elle est tellement bonne, cette bonne nouvelle. On ne peut pas la garder pour nous-mêmes. Petite parenthèse, transmets-le à d'autres, et il donne des points de sagesse très importants, verset 2. Et puis il revient, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Voilà ce que je vous propose. Franchement, ce verset 2, peut-être on se reverra dans 10 ans, et je vous dirai si j'ai mieux compris. Mais j'ai du mal à comprendre, pas ce qu'il dit, mais pourquoi il le dit à ce moment-là. Alors l'autre raison pourquoi il le dirait, hein, c'est parce que c'est des collaborateurs de Paul qui l'ont abandonné. Donc si tu perds des équipiers, c'est important d'en former d'autres pour que le travail continue. Mais quand même, l'emplacement de cette exhortation, de ce conseil à Timothée, elle est étrange, l'emplacement. Verset 2, c'est la mission. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Est-ce que tu es conscient? Est-ce que je suis conscient que c'est ma mission? Oui, on est conscient que c'est la mission d'un responsable d'église de former d'autres responsables. Et c'est sans doute ce qui est là. D'ailleurs, le texte littéralement dit « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Il ne dit pas à des êtres humains fidèles, à des hommes fidèles, qui peut être, sans général, tous les êtres humains, mais ça peut aussi vouloir dire à des responsables d'église, des anciens, ça va être des hommes, si on regarde un Timothée. Peut-être qu'il y a certainement ça. Mais les implications sont pour nous tous. Est-ce que tu es conscient, est-ce que je suis conscient que l'évangile, c'est quelque chose de viral? C'est quelque chose qui doit être propagé. C'est une si grande nouvelle qu'on peut être libéré de la performance. C'est une si grande nouvelle qu'on peut avoir la garantie de l'immortalité. Pour citer juste les deux exemples qu'on a donnés. On doit la communiquer à d'autres. Et on a 4 générations dans ce texte. Je ne vais pas les détailler, mais on voit que Paul a reçu l'évangile de Jésus. Paul l'a transmis à Timothée. Timothée doit la transmettre à des hommes fidèles. Donc ça veut dire qu'ils se donnent des bons signes de ne pas abandonner à leur tour la foi. Et la 4e génération, le critère pour ces hommes, c'est qu'ils soient fidèles et qu'ils soient capables d'enseigner à d'autres. Et ça vient quand même à l'encontre de beaucoup de notre vie d'église. Et donc là, j'en profite, petite parenthèse. Je cible personne. Nous, on a la première tentation. Hein. La Bible, c'est vrai, nous dit de s'occuper des faibles dans les églises, les brebis qui ont la patte cassée, si vous voulez. Mais il y a un danger actuellement dans notre culture évangélique d'oublier que la charge d'un responsable d'église, c'est de transmettre l'évangile dans son paquet complet de tout ce que Dieu a dit pour qu'on le connaissent, qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse le servir, on doit transmettre ça à des hommes et des femmes capables de l'enseigner à d'autres. Et donc, on doit investir du temps dans ceux qui ont, si vous voulez, du potentiel. Parce que ce n'est pas juste à Stéphane ou à Bruno ou à Mathieu, nous, c'est 3 dans l'équipe pastorale, des anciens, d'enseigner à tout le monde. Non, non, on doit enseigner à des personnes capables d'enseigner. Et c'est toute la différence. Et donc, application très concrète pour nous aujourd'hui à Pont, est-ce que tu es conscient que c'est ton devoir d'enseigner aussi à d'autres? Et juste un encouragement clair, si tu es une femme, je suis convaincu que tu as aussi une responsabilité d'enseigner, tu ne veux pas sortir la carte « Oh, je suis une femme, donc c'est fini ». Tite 2, page 785, Tite 2, versets 3 et 4. « De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Au minimum, toute femme est appelée à enseigner d'autres femmes. Au minimum. Et puis ensuite, si on prend Matthieu 28, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant et les enseignant tout ce que je vous ai prescrit », nous croyons à Pont que c'est vraiment chaque disciple est appelé à faire ça, hommes et femmes, sans exception. Oui, la responsabilité d'être ancien berger au-dessus d'une église revient aux hommes à cause de ce que Dieu dit dans 1 Timothée 2. Mais non, ce n'est pas une excuse pour ne pas chercher à savoir tout ce que Dieu a enseigné pour pouvoir l'enseigner à d'autres. Et ça changerait énormément la vie d'église si on se rendait compte qu'on est appelé à ça. Tu imagines un peu l'ambition, la sainte ambition qu'on devrait avoir. Notre mission, c'est de transmettre l'évangile, la bonne nouvelle à la génération suivante. Mais pas juste nos enfants. Ça peut être vraiment quelqu'un à une année d'écart de nous qui va tout de suite l'enseigner à d'autres. Quelque chose de viral. Parce que tout le monde a besoin de savoir qu'on peut être libéré de la performance, qu'on peut être libéré de la mort, qu'on peut être libéré de la culpabilité, qu'on peut être libéré d'un corps qui veut le mal. On peut être libéré de notre ancienne vie. Donc, on a vu notre menace, notre ennemi, on a vu l'arme. Que pour nous fortifier et pour avancer, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la grâce qui est en lui. Notre mission, c'est de faire des disciples. Il n'y a vraiment aucune mention des temps pleins qui feraient les disciples et les autres simplement les payent. Il n'y a pas ça. Les temps pleins, c'est quelqu'un qui serait salarié de l'église. C'est cool quand ça arrive, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si je devais arrêter d'être temps plein, je continuerais à servir l'église et à faire des disciples. Et en parenthèse, moi je vous confesse que moi-même, je me prêche à moi-même en lisant et en méditant ce texte toute la semaine, je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire ici, pas tant dans l'enseignement de chrétiens qui ont le potentiel d'enseigner d'autres chrétiens, mais depuis un an, depuis mon burn-out, je m'en sers un peu comme une excuse pour plus passer du temps avec les voisins. On a déménagé, c'était le moment de rencontrer tous les voisins, et on a un peu raté la fenêtre d'opportunité pour faire connaissance. Et après, c'est un peu bizarre de 6 mois, 1 an plus tard. Ouais, donc on est nouveau voisin, machin. Bref, mais c'est une excuse. Et je sais que mon groupe de croissance me tient redevable depuis une semaine. Je dois changer là. Le Saint-Esprit qui nous a été donné à Pentecôte est un Saint-Esprit qui n'est pas un esprit de timidité. Mais un esprit, on a lu, de force, d'amour et de sagesse. Pour qu'on soit des témoins partout. Donc je ne veux vraiment pas jeter la pierre en te faisant culpabiliser, ce n'est pas ça. Mais est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit qui est en toi, si tu as placé ta confiance en Jésus, est un esprit qui va te donner la force, l'amour et la sagesse pour témoigner? Et on termine avec l'attitude. Regardez les derniers versets 3, 4, 5, 6, et on va pas vraiment passer beaucoup de temps dans le 7, parce qu'on l'a regardé dans le prélude. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. 3 images ici que Paul nous donne, dont la plus fameuse, c'est celle du soldat certainement. Souffre comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat en temps de guerre, un soldat en campagne. J'ai un ami qui est aumônier dans l'armée britannique Et il me donnait des détails sur les soldats qui rentrent tous les week-ends en Grande-Bretagne pour voir leur copine, tout ça. Et je dis, mais ils sont combien à rentrer le week-end? Ils ont permission, ils sont combien à avoir permission le week-end? Oh, 90%. Je dis, ah bon? Bon, ce serait le bon moment d'attaquer. Si on était en temps de guerre, ça se ferait plus. En temps de guerre, les soldats n'auraient plus cette permission. Parce que sinon, tout le monde attaquerait le samedi et le dimanche. C'est bon, 90% de la caserne est vide. Le soldat en temps de guerre, aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Donc, question flagrante pour moi, pour toi. Est-ce que ça brûle en moi? Je veux plaire à Jésus qui m'a recruté. C'est lui mon officier. C'est lui qui m'a recruté et c'est pour lui que je fonce. Ou est-ce que je m'embarrasse des affaires de la vie? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas boire un bon verre de vin avec des amis. C'est pas ça. Certains l'ont pris comme il faut être ascète et il faut se séparer de toute relation avec des voisins et des personnes qui ne croient pas en Jésus. C'est pas ça. Mais c'est est-ce que quand on te rencontre, est-ce que la première impression c'est voici un homme ou une femme qui est en mission? Elle vit pour plaire à son officier qui l'a recruté. Et on n'est pas dans du radicalisme ici. On suit quelqu'un qui est mort pour nos péchés, par amour pour nous. On n'est pas ici face à quelqu'un qui s'est fait sauter pour avoir des vierges au ciel. On est face à quelqu'un, Jésus, qui était radicalement dévoué à nous libérer de nos péchés, radicalement dévoué à nous libérer de la culpabilité, de la performance. Est-ce que tu vis avec cette image du soldat qui veut plaire à son officier qui l'a recruté? Pareil, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Les athlètes sont prêts à tous les sacrifices. Même des athlètes qui ne sont pas dans les plus hauts niveaux sont mais juste motivés. On avait Steve Coffey qui était là, qui jouait pour Pondichéry dans l'équipe de basket. Le gars était en train de faire plusieurs heures de musculation par jour. Un, pour se sentir bien, parce qu'une fois que tu le fais, t'es accro. Mais deux, parce que ça va te permettre chaque samedi pour le match d'être au top de ta performance. Est-ce que tu es conscient de ça? Que tu veux pas être disqualifié. Tu veux combattre selon les règles, comme un athlète qui est prêt à tous les sacrifices pour pouvoir plaire à ton officier, si je mélange les métaphores. Et troisième, le fermier, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Est-ce que tu es prêt à accepter n'importe quel sacrifice? Pas pour qu'on te plaigne, pas pour qu'on dise « Oh, c'est si beau ce qu'il fait Stéphane en faisant machin ». Non, parce que j'ai envie de participer aux promesses que Jésus a faites. C'est ça le fruit qu'il promet. La récompense de régner avec lui, la récompense de vivre avec lui, la récompense de le voir tel qu'il est vraiment le roi créateur, mort pour nos péchés. Est-ce que ces trois images sont vraiment caractéristiques de notre vie? Si elles ne le sont pas, réponse verset 7, réfléchis à ce que je dis et que le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. C'est pas du jour au lendemain que ça va avoir lieu. On a besoin de constamment revenir à ces images, de constamment revenir à ces exhortations, à ces instructions, et demander à Dieu, par son Saint-Esprit, s'il te plaît, motive-moi à nouveau, à la lumière de ce que Jésus a fait pour moi, d'accepter, de voir que tous les sacrifices valent la peine, valent le coup, pour obtenir cet évangile. Il nous est offert, mais une fois qu'on place notre confiance à cet évangile, Dieu nous donne la force pour vivre comme ça, pour faire connaître l'évangile. On va s'arrêter là. L'évangile vaut bien tous les sacrifices. Donc j'espère que si tu as peur du prosélytisme ou peur du radicalisme, que tu vois ici dans ce texte, c'est normal de vouloir parler de Jésus. On ne gagne pas de points, mais c'est la meilleure nouvelle de tous les temps, un Dieu qui meurt pour ses sujets, pour qu'on n'ait pas besoin de mourir pour nos propres fautes et nos propres erreurs et nos propres conneries. Et si tu as peur du radicalisme, oui, la Bible utilise l'image du soldat, mais c'est le soldat qui est prêt à souffrir aux mains de fous. Il est prêt à mourir aux mains de radicaux par amour pour les autres, pour que les autres puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. C'est un radicalisme complètement différent. Ce n'est pas un radicalisme qui cherche à avancer sa propre cause au détriment des autres. C'est celui qui est prêt, au détriment de sa propre personne, d'avancer pour le bien des autres. C'est ce que Jésus a fait pour nous et c'est ce que nous sommes appelés à faire pour les autres. J'ai prié. Père, s'il te plaît, fortifie-nous dans la grâce qui est en ton Fils Jésus-Christ. Tu vois que c'est des paroles qu'on peut dire et ne pas du tout ressentir la puissance de cette grâce. Ça peut devenir des mots vides de sens si on est dans des églises depuis de nombreuses années. S'il te plaît, aide-nous à méditer cette grâce tous les jours de notre vie. Et à réaliser, comme on le dit souvent ici en blaguant, que tous les jours de notre vie, on va mieux qu'on le mérite. On va vraiment mieux qu'on le mérite. Et merci pour cette grâce. Et Père, tu vois combien les besoins sont énormes, les milliers de personnes qui sont perdues dans leur péché, qui te rejettent, qui ne te connaissent pas du tout, ils ne savent pas qu'ils vont être jugés pour leur faute, ils ne savent pas que tu as envoyé Jésus pour payer leurs dettes, qui peuvent être graciés. S'il te plaît, donne en nous, inspire en chacun d'entre nous une sainte ambition, un saint désir de prendre tout ce qu'on a reçu et de rapidement le transmettre à d'autres, simplement, sans se prendre la tête. Donne-nous vraiment cette simplicité. Fais de nous, s'il te plaît, tes témoins, à travers ton Saint-Esprit qui nous a donné pour qu'on soit témoins. Et Père, tu nous as donné ton esprit aussi pour nous changer le cœur, pour nous permettre de naître nouveau. Si quelqu'un ici vient de mettre sa confiance en toi, ou veut mettre sa confiance en toi, s'il te plaît, sauve-la. Permets que son cœur qui te rejette soit transformé et qu'elle puisse venir à toi en toute confiance. On demande tout ça, Père, au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus. Amen.